Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Grand Direct de Radio Django ce mardi 23 janvier, édition 128 de ce Grand Direct. Trois sujets au menu gastronomique de ce mardi et on va commencer, Samuel, avec une exposition photo au 221 à Lausanne.
Oui, c'est une exposition de photos et de textes, portraits de gymnasiens qui se sont écrits à eux-mêmes un message qu'ils liront dans 10 ans. Une exposition extrêmement puissante et très chargée en émotions.
Et puis on en parle avec qui ce soir ?
Alors on en parle avec Malnika Nadesan, qui est la professeure de français qui a créé cette exposition avec les élèves, et une gymnasienne qui a accepté de raconter son expérience, Julia, qui seront avec nous ce soir.
Voilà, ce sera dans Vivre à Lausanne dans quelques instants. À 18h20, La Rose des Vents, ce sera avec toi, Omar. Bonsoir.
Bonsoir, Fabien.
Tu es de voix d'exil, hein, est-ce qu'on a vraiment besoin de le rappeler ? Mais quand même, et tu vas nous raconter ce soir, nous conter une histoire. Ma foi un petit peu malheureuse, celle d'une des chroniqueuses de Voix d'Exil qui est venue dans ce grand direct.
Tout à fait, c'est en fait l'histoire d'Anouche, c'est une interview et Anouche a eu une expérience un peu troublante le 5 janvier dernier. Elle a reçu un plan de vol pour rentrer dans son pays d'origine en Arménie.
Voilà, donc on découvre ce plan de vol et cette histoire dans une vingtaine de minutes au menu de La Rose des Vents. Et puis tout à l'heure à 7h20, ce sera Cultiver Lausanne avec ce soir une captation, comme on dit dans notre milieu. C'est Stéphane qui a mis son micro exclusivement pour Radio Django. Une captation de la pièce Dialogue d'un chien avec son maître sur la nécessité de mordre ses amis. Une pièce de Jean-Marie Piem pour le collectif Nung Théâtre. Une pièce à découvrir dans Cultiver Lausanne ce soir, tout à l'heure, à 7h20. Une expo photo au 221, le renvoi d'une chroniqueuse de Voix d'Exil. Et la pièce Dialogue d'un chien avec son maître sur la nécessité de mordre ses amis. C'est le programme de ce 128e Grand Direct à écouter sur radio.django.fm et sur Radio La Fabrique. Je suis Fabien, je vous accompagne jusqu'à 19h. Bienvenue dans ce Grand Direct.
Radio Django, vivre à Lausanne.
Bonsoir Samuel.
Bonsoir Fabien.
Ce soir dans la rubrique Vivre à Lausanne, tu nous proposes de découvrir la capsule temporelle, une exposition présentée cet automne à l'abri de Genève, qu'on peut découvrir actuellement au théâtre 221.
Oui, alors le 221 propose de plonger dans le monde de l'adolescence grâce à cette exposition de photos et de textes dont on ne ressort pas indemne. Si après avoir vu cette émission, vous décidez de vous rendre au bout de la rue de l'Industrie à Lausanne et de pénétrer dans le foyer du théâtre, préparez-vous à être bouleversé. Vous allez découvrir 12 jeunes de 15 à 18 ans qui ont été photographiés par Anouche Abrar. Et en regard de sa propre photo, chacun a rédigé un message à soi-même qui est destiné à être lu dans 10 ans. D'où le titre de l'exposition, La capsule temporelle. Alors dans ces récits intimistes, ces ados crient leur rage et leurs espoirs. Ils dévoilent aussi leur frustration et révèlent leur peur.
Voilà, un programme très complet. Et pour en parler ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Malnika Nadesan. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur Radio Django. Vous êtes professeur de français au gymnase de Nyon. Et à nos côtés également, Julia, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'une des étudiantes qui a participé à ce projet. Bienvenue à toutes les deux. Merci. Malnika Nadesan, peut-être pour commencer, vous faites partie des deux initiatrices ou initiateurs. Tiens, vous êtes en couple avec un homme pour la présentation, la préparation de ce sujet. Je dis n'importe quoi. La préparation de cette exposition.
J'ai travaillé avec Anouche Abrar, qui est donc photographe et qui est aussi un très bon ami à moi. Non, nous ne sommes pas en couple.
Non, mais je disais en couple, binôme.
Et donc, oui, j'ai collaboré avec lui autour de ce projet. Oui.
Voilà, et lui, il est photographe reconnu, notamment avec des portraits de Kofi Annan, et puis il enseigne également à l'ECAL. Hein.
Oui, tout à fait.
Comment est-ce que vous avez élaboré cette exposition qui a été créée lors d'une semaine spéciale au gymnase de Nyon ?
Alors, effectivement, je me suis trouvée avec la possibilité de proposer un projet durant cette semaine spéciale en février dernier à Nyon. Et il se trouve qu'avec Anouche, on avait déjà collaboré autour d'un autre projet pour le petit quelques années auparavant. Et on s'est dit que ce serait l'occasion de travailler ensemble. Et il avait proposé cette idée de capsule temporelle. Et on a essayé de voir ensemble comment on pouvait à la fois créer quelque chose de l'ordre de la photographie pour lui et du texte pour moi à partir de cette thématique-là.
Est-ce que l'exposition s'est imposée pendant le projet ou est-ce qu'elle était initialement prévue comme aboutissement de cette semaine spéciale ?
Elle était prévue et proposée dès le départ. Donc, dans le projet, c'était d'avoir des ateliers d'écriture et un shooting photo à la fin de ces ateliers qui avaient pour but justement une exposition.
Et est-ce qu'il a été difficile de convaincre les élèves de montrer leur travail, de montrer leur texte surtout ?
Eh bien, au départ, quand ils se sont inscrits, parce que c'était un atelier qui était proposé sur inscription, donc on partait du principe que les 12 inscrits étaient 12 volontaires, et il a fallu expliquer que le but était justement de montrer les textes, et que par conséquent, ce serait vu.
Public.
Oui.
Mmh. Donc cette exposition, comme on l'a rappelé, ce sont des textes et aussi des portraits qui sont réalisés par Anoush Abrar. Est-ce que les deux ont été faits en même temps, pendant la même semaine ?
Alors c'était durant la même semaine, on avait une semaine à disposition et en fait au départ les ateliers ont pris la forme du travail d'Anoush où Anoush a présenté ce qu'il faisait en termes de photographie, de prendre conscience de ce qu'est finalement une œuvre d'art. Donc ça a été d'abord la compréhension de ce qu'est une œuvre d'art, puis on a mis en place des ateliers autour de cette idée-là. Et à la fin, il y a eu une journée complète consacrée au shooting et à l'écriture.
Alors, dans l'écriture, on a des textes qui sont extrêmement intimes, qui vont très loin dans l'introspection. Comment vous avez réussi à conduire les élèves jusque-là ?
Alors, écoutez, j'y suis pour rien, j'ai envie de vous dire. On a demandé à ce que, finalement, pour faire cet objet d'art, que les élèves révèlent une part authentique. De même, il fallait absolument qu'ils lâchent quelque chose d'eux, qui soit vrai. Mais dans ce sens-là, on n'entendait pas forcément quelque chose de pénible ou de difficile. Et ça a pris cette direction et ça nous a surpris. Et, on était tous les deux très, très émus à la lecture des textes et on ne s'attendait pas à un tel retour. Donc ça a pris cette direction-là. Peut-être parce que, justement, à l'adolescence, le fait de parler de quelque chose d'authentique signifie quelque chose de difficile.
Est-ce que vous avez été surpris ? Est-ce que l'entourage, les autres profs, par exemple, du gymnase, les parents ont eu une réaction aussi surprise ? Ou est-ce qu'ils découvraient, ils redécouvraient quelque chose qu'ils connaissaient déjà de ces élèves ?
Non, pour certains parents qui sont venus me trouver durant les vernissages, avec les larmes aux yeux ou en pleurant, en me disant, ben voilà, finalement, l'écriture a été thérapeutique pour mon enfant, ou certains parents m'ont dit qu'ils ont découvert leur fils ou leur fille à ce moment-là. Donc oui, je pense qu'ils ont vraiment joué le jeu, ils sont allés loin, ils ont beaucoup donné de leur personne, mais voilà, au niveau de la tournure qu'a pris l'exposition et le ton un peu sombre qu'elle a, en fait, on ne s'y attendait pas.
On a effectivement beaucoup de propos sur la violence du monde de l'adolescence et l'exclusion des trop maigres, des trop gros, des pas assez hétéros, des étrangers, c'est quand même très présent dans le propos. Avec le recul de ces deux expositions, puisqu'il y en a eu une à Genève cet automne, est-ce que vous avez le sentiment, quel impact a eu cette exposition au sens propre du terme de leur intimité sur ces jeunes gens et ces jeunes filles ?
L'impact sur eux-mêmes, ben pour certains, ils m'ont dit, ils m'ont confié que c'était libérateur. Pour d'autres, je n'ai pas eu vraiment de retour, dans le sens où ce n'est pas mes élèves, hein, je ne les vois pas souvent. Donc on a été réunis dans le cadre de ces ateliers, mais on ne se voit pas tant en dehors. Pour certains, ça a eu un effet thérapeutique, certains. Pour d'autres, ça a été douloureux dans la mesure où il a fallu exposer des choses. Puis après, bien, c'est toute l'ambivalence d'assumer ou non ce qu'on a dit. Donc voilà, c'est pas une exposition simple.
Est-ce qu'il y en a qui ont regretté de se montrer comme ça ?
Ben, pour certains, la médiatisation n'a pas été facile parce qu'il y avait cette idée d'exposition qui semblait plus intimiste dans la mesure où c'était limité à un cadre. Et puis, tout à coup, les médias, c'est pas le même rapport. Donc là, c'était peut-être plus compliqué pour certains.
On a également à nos côtés ce soir Julia. Rebonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'une des 12 jeunes qui avaient participé à ce projet intimiste. Merci d'avoir accepté ce soir de venir nous raconter comment vous avez vécu de l'intérieur cette création. La première fois que vous avez vu votre portrait exposé en public et le texte qui l'accompagne, c'était à Genève, à l'Abri. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ?
Tout d'abord, c'est impressionnant de se voir dans une salle face à des photos qui sont quand même assez imposantes, assez grandes. Donc ça m'a fait bizarre, mais il ne faut pas oublier qu'on est 12, on est ensemble. Ce n'est pas juste ma photo qui est exposée, c'est 12 photos qui sont exposées de 12 élèves. Et puis, c'était beau de tous nous voir ensemble, en fait.
Quand vous dites une grande photo, qu'on ait une idée de la taille.
Je ne sais pas exactement. Un mètre sur 50
centimètres.
Ouais, voilà, quelque chose comme ça.
Donc, alors, plutôt une sensation de globalité des 12 personnes,
voilà,
en parallèle.
Exactement.
Alors, dans le portrait, justement, le portrait photographié, on sent à la fois une certaine recherche de pose, de tenue, et en même temps beaucoup de naturel. Comment s'est passé le travail avec le photographe dans la réalisation de ce portrait ?
Alors, c'est surtout lui qui nous demande de poser. Donc, il nous met à l'aise, il nous propose certaines choses. Et puis après, nous, on peut aussi proposer. Et puis ensemble, on essaie de trouver une position et que ça donne vraiment un ensemble, en fait, de deux idées, en fait.
Et pour ce qui est de votre texte, donc c'est un bel éloge de la différence, je trouve. Vous écrivez à vous-même, « Protège ta différence, elle te remerciera ». Et plus loin, vous écrivez, « Ta différence apaise ton cœur lorsque tes mains tremblent. Elle te pousse à crier lorsque tu t'obliges à garder le silence ». Est-ce que vous avez le sentiment qu'il est difficile d'être différent quand on est adolescent ?
Difficile, oui, par moment, pas toujours. C'est clair que quand on sort de la norme, pas tout le monde l'accepte. Beaucoup de gens en sont également reconnaissants et admirent, mais c'est toujours c'est un équilibre à trouver, en fait. Moi, j'aime bien trouver des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Mais j'admets, c'est pas toujours facile.
Et votre entourage, comment est-ce qu'il a réagi, vos amis, votre famille ?
Ils étaient très heureux, très contents, très. Moi, ils sont venus voir l'expo à l'Abri, ils sont venus voir l'expo à Lausanne, là au Théâtre 21. Et puis, ils sont très motivés, très excités par cette exposition.
On sent d'ailleurs, j'étais au vernissage au 2-21, dans le groupe lui-même, il y a quelque chose de... Je ne sais pas si le groupe existait déjà avant la semaine spéciale ou si c'est constitué, vous étiez déjà amis, mais on sent quelque chose de très fort entre vous.
Alors, on ne se connaissait pas tous, certains, mais voilà, comme Malika Nadezan l'a dit, c'était un choix d'être dans cette capsule temporelle. Mais forcément, après avoir passé une semaine ensemble à faire un projet aussi personnel sur chacun, on apprend à connaître différemment ces personnes. Et puis, je pense que ça nous a unis, oui, d'un côté, oui. Mm-hmm.
Alors, cette semaine spéciale a eu lieu au printemps 2017. Avec le recul, presque un an plus tard, est-ce que vous diriez que cette expérience a changé quelque chose dans votre vie ?
Alors oui, sûrement changé parce que on a été exposé dans deux endroits différents. Beaucoup de monde nous ont vus. Et puis, je pense que d'une manière, ça m'a permis de voir d'un point de vue extérieur moi-même, de me relire, de me revoir en photo. Forcément, ça fait bizarre et ça nous peut-être pose des questions, ça... Donc oui, je pense que ça m'a fait réfléchir et grandir d'une certaine manière, oui.
Malika Nadezan, pour vous, même question. Est-ce que cette expérience a changé quelque chose dans votre vie ?
Alors forcément, oui, parce que je n'avais jamais dirigé un atelier d'écriture de cette envergure-là, disons. Uh-huh. Et j'ai pu voir à quel point j'avais affaire à un public sensible. Et bon, j'en avais conscience, mais là, disons, de façon plus aiguë avec leur production. Uh-huh. Et effectivement, je pense qu'à la lecture des textes, on ne sort pas indemne. On peut le voir au vernissage, les réactions des gens lorsqu'ils viennent voir l'exposition. Je pense que ça rappelle pour certains d'entre eux des souvenirs. C'est une part de soi-même quelque part qui est révélée à travers leurs textes. Donc vraiment, il y a quelque chose de très fort.
Est-ce que du coup, vous avez l'intention de renouveler cette expérience, soit au gymnase, soit auprès d'autres publics ?
Alors effectivement, dès ce week-end, samedi et dimanche, je travaille à la Marmotte, où on va refaire une capsule temporelle avec une dizaine de personnes, des Roumains, des Sénégalais, qui fréquentent donc la Marmotte et qui ont décidé de participer aussi volontairement au projet d'écriture. Et on sera avec une nouvelle photographe, Laetitia Gessler, qui va m'accompagner aussi dans ce projet, et Benjamin, qui est aussi enseignant au gymnase de Nyon. Mm-hmm. Et on va donc de nouveau diriger ces ateliers avec un autre public.
Avec le même concept de pouvoir de nouveau présenter les expositions groupées, textes et images.
Oui, alors ces images, elles seront présentées au festival Au Vallon à partir du mois de juin. Et aussi publiées dans Ma vie de marmotte, qui est le livre publié par La Marmotte.
Samuel, vous êtes allé au vernissage et vous avez trouvé, hein, vous me disiez en préparant cette émission, que c'était un travail très puissant.
Oui, c'est ce que disait Malika tout à l'heure. Je pense que c'est à la fois... on rentre dans l'intimité d'individus, des ados en l'occurrence.
Qu'on ne connaît pas.
Qu'on ne connaît pas. Et en même temps qu'on a l'impression du coup de découvrir vraiment de manière très personnelle, puisqu'il y a leurs photos, leurs textes très intimistes. Et en même temps, c'est un univers qui fait écho à forcément sa propre adolescence. Et donc, je pense que c'est ce dispositif qui est extrêmement puissant et qui est très évocateur pour le spectateur. Mmh.
Voilà, mais c'est ce qu'on vous encourage à faire, à vous rendre compte par vous-même pour découvrir cette exposition qui se tient jusqu'au 11 février, tous les jours, sauf le lundi. C'est au théâtre du 221 et les heures de visite, eh bien, c'est aux heures des représentations du théâtre. Tout simplement, et puis votre prochain projet, dont on aura l'occasion certainement d'en reparler avec La Marmotte, qui sera présentée cet été au Vallon. Merci beaucoup Malika Nadessan.
Avec merci. Plaisir, merci à vous.
Merci beaucoup d'être venu nous parler ce soir de ce projet. Merci également à vous Julia.
Merci à vous.
Tout bon à vous, et puis félicitations pour votre participation merci. À ce projet. On vous encourage donc toutes et tous à vous rendre au théâtre du 221 pour découvrir cette magnifique exposition qui promet de faire vivre des émotions fortes à celles et ceux qui auront la chance de la voir. Un sujet préparé ce soir pour vous par Samuel, à retrouver sur notre site www.django.fm, et on vous a mis tous les liens, y compris les horaires d'ouverture, sur notre site et sur la page de l'émission. Merci Samuel.
Merci Julien.
Voici un peu de musique, Amy Winehouse, Back to Black.
Radio Django, La Rose des Vents.
18h20 précisément sur Radio Django, on accueille Omar, responsable de la rédaction de Voix d'Exil, qui nous rejoint exceptionnellement ce soir. Bonsoir Omar.
Bonsoir Fabien.
Alors pourquoi est-ce qu'on te retrouve ce soir en détail? Explique-nous.
Alors en fait, c'était prévu qu'Anouche, notre rédactrice de Voix d'Exil, réalise le sujet d'aujourd'hui. Mais le 5 janvier dernier, Anouche a reçu du service de la population vaudois un plan de vol pour le 15 du mois. Cela signifiait que sa procédure d'asile était rejetée par le service d'État au secrétariat d'État aux migrations, le SEM, et qu'elle avait à peine 10 jours pour plier ses bagages et prendre un vol pour rentrer en Arménie, son pays d'origine. Mais heureusement, le fait qu'Anouche avait entrepris au préalable une démarche auprès du bureau d'aide au retour vaudois a fait qu'elle a pu éviter d'être renvoyée ce jour-là. Raison pour laquelle on s'est dit qu'on allait faire un sujet autour de l'expérience psychologique et émotionnelle de son renvoi imminent.
Effectivement, c'est une bonne idée. Donc, si je comprends bien, Anouche passe du statut de chroniqueuse de Voix d'Exil à celui de témoin d'une expérience.
Oui, tout à fait, Fabien. Anouche a accepté de témoigner de ce moment que 287 demandeurs d'asile déboutés, plus tous ceux qui ont échappé à un renvoi forcé à l'image d'Anouche, ont pu vivre en Suisse en 2017. Mais en même temps, il faut bien se rendre compte que chaque situation est unique, car chaque requérant d'asile a ses raisons qui l'ont poussé à quitter son pays d'origine pour tenter une procédure d'asile en Suisse. Il s'agit donc ici du témoignage d'une expérience personnelle.
Et donc nous accueillons ce soir Anouche. Bonsoir.
Bonsoir Fabien, bonsoir Omar. Alors effectivement, mon idée est d'explorer de l'intérieur cette expérience de renvoi imminent et je vais tenter d'analyser cette situation que j'avais vécue il y a 18 jours avec le plus de recul possible.
Mais avant de te donner la parole, Anouche, encore quelques mots à ton sujet pour bien comprendre ta situation. Tu es mère célibataire avec deux enfants bas âge de 1 et 4 ans et tu es venue en Suisse en 2016 avec ta mère qui t'a aidée à t'occuper de tes filles. Mais avant de te raconter ton expérience, pourrais-tu s'il te plaît nous expliquer ce qu'est un plan de vol et à quoi ressemble ce document que tu as pris d'ailleurs, n'est-ce pas ?
Oui, j'ai le document avec moi que j'ai reçu au SPOP, au guichet. Si tu veux, c'est un document avec une date et l'heure précise du vol, via quel pays. Il y a aussi une information par rapport à combien de kilos il faut prendre pour un adulte et pour les enfants. Et j'ai vu l'heure exacte à laquelle je serai à l'aéroport de Yerevan en Arménie.
Et quand est-ce qu'un plan de vol est mis en place au niveau de la procédure d'asile ? Quand est-ce que ça intervient ?
Alors, après une décision négative, le requérant d'asile débouté perd son permis N et passe à l'aide d'urgence. Dans cette situation, le pire que puisse arriver, c'est de recevoir un plan de vol. Et, en fait, c'est un jour exact quand tu quittes le pays. Tu sais qu'un jour, tu vas le recevoir, mais chaque fois, quand tu es au SPOP devant le guichet, tu espères que ce n'est pas aujourd'hui que tu vas le recevoir.
Très bien, alors donc maintenant on cerne ce que c'est un plan de vol et pourrais-tu maintenant rentrer un peu dans le détail de la situation que tu as vécue le 5 janvier dernier ?
Alors le 5 janvier, je me suis présentée auprès de Securitas, après quoi j'ai pris mon ticket en attendant mon tour. Et chaque fois que ça sonne sur le moniteur les numéros de ticket d'attente, mon cœur sortait de ma bouche. Et en face de moi, il y avait, si tu veux, 5 portes derrière lesquelles ils ont déjà choisi un futur pour moi, qui n'a rien à voir avec mes projets que j'ai prévus pour les prochains temps. Et tu reçois ton destin devant le guichet sans avoir la possibilité de le modifier ou changer quelque chose.
D'accord. Et comment la nouvelle t'a-t-elle été annoncée et quelle a été ta première réaction ?
Première réaction, j'ai commencé à rigoler, mais le visage de la personne derrière de la fenêtre, il m'a fait comprendre que ce n'est pas ni une blague, ni une erreur. Et voilà, c'est ça la réalité. Mais si tu veux, une partie de moi était sûre parce que je collabore actuellement avec le bureau d'aide au retour. J'ai demandé une aide au retour dans mon pays. Et j'étais un peu rassurée parce que étant dans cette situation, tu ne peux pas être renvoyé directement. De toute façon, tu vas recevoir une aide avant de partir.
Très bien. Et quels sont les scénarios que tu as envisagés quand tu as reçu la nouvelle ? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête, en fait, à ce moment-là ?
La première idée, c'est de vite s'éloigner de cet endroit, prendre un bus pour n'importe quelle direction ou n'importe quel bus, justement pour réfléchir à la suite. Parce que j'ai vécu vraiment un choc. J'attendais pas de recevoir un jour exact de mon départ. Mais si tu veux, je n'ai jamais prévu de prendre l'avion. Mes scénaristes, c'était plutôt comment changer cette décision.
Très bien, tu es dans le bus, tu rentres à la maison. Et comment est-ce que tu as annoncé la nouvelle à ta famille?
Alors, dans cette histoire, ça a été le moment le plus difficile. Et devant la porte de chez moi, j'ai rencontré ma voisine et j'ai commencé à pleurer en racontant ces nouvelles parce que vraiment j'avais besoin d'un adulte, mais j'étais sûre que ma mère n'était pas la meilleure personne pour ça. Je n'en ai pas parlé tout de suite à ma famille. Et le fils de ma voisine est dans la même classe que ma fille de 4 ans à l'école. Et c'est son meilleur ami. Et le jour de la rentrée, c'était le 8 janvier, il a appris cette nouvelle par lui. Il lui a dit qu'il pleurait quand elle partirait. Elle n'a pas tout de suite compris. Et cet après-midi-là, à la maison, elle a commencé à faire sa valise en pleurant. Vraiment, elle a pleuré parce qu'elle ne savait pas quel doudou prendre et lequel laisser, parce qu'elle a seulement droit à prendre avec elle un petit valise. Et voilà, c'était très compliqué pour moi, comme pour ma mère aussi, de voir la petite en pleurant en face de cette difficulté que même pour un adulte, c'est insupportable.
Et qu'est-ce qu'on attend de ses amis? Enfin, quelle a été ta réaction? Est-ce que tu as regardé dans ton entourage? Est-ce que tu pouvais trouver de l'aide?
Omar, la plupart de mes amis sont dans la même situation où... Je peux dire encore pire. J'étais sûre que je ne recevrais pas une aide de leur part, mais j'étais complètement perdue. Je savais que c'était en vain. J'ai commencé à appeler à tout le monde justement pour avoir un petit conseil, je ne sais pas, un refuge. Je cherchais n'importe quoi de la part de n'importe qui.
D'accord, tu cherchais juste une oreille en fait.
Oui, juste une oreille pour parler parce que... J'étais complètement perdue. J'avais juste besoin de... J'ai fait plusieurs appels.
Et donc, malgré ton départ programmé le 15 janvier, tu es là parmi nous, Anouche, et tu m'as dit en préparant cette interview que tu t'estimais encore privilégiée. Est-ce que tu peux nous expliquer cette
oui,
phrase?
Oui, Omar. Alors, moi, je parle français. Et tu sais que j'habite à Lausanne et j'ai ma mère avec moi qui s'occupe de mes filles quand il y a des difficultés ou des rendez-vous, des choses pas prévues. Et imagine la situation d'une dame que je connais personnellement qui habite à Lausanne, dans le foyer de l'EVAM, avec ses 3 enfants de 8 mois, 3 ans et 4 ans, je peux dire, et 8 ans. Et elle ne parle pas français, ni anglais, ni d'autres langues étrangères. Et juste pour venir faire un trajet Lausanne, il faut être vraiment courageux pour changer plusieurs transports publics.
Avec ses enfants.
Avec ses enfants, 3 enfants de bas âge. Et... Quand cette dame, elle reçoit une décision administrative ou une lettre, une décision, elle doit trouver quelqu'un qui peut expliquer qu'est-ce qu'elle a reçu pour faire une traduction et après essayer de trouver une aide, soit service juridique, soit d'autres, trouver quelqu'un dans d'autres organisations, associations. Et tu as vu qu'il y a juste des courts délais de 5-6 jours et c'est presque impossible de faire quelque chose. Alors, c'est tellement compliqué. Et pour moi, c'est facile. J'habite à Lausanne, je parle français. J'imagine la situation justement d'autres personnes qui sont en face de cette difficulté.
Très bien. Et Anouche, quelle est la suite pour toi aujourd'hui?
Pas de suite, Claire Omar. J'ai mon agenda avec beaucoup de points d'interrogation. Je vis au jour le jour, dépendant de l'aide financière de l'antenne, de l'aide d'urgence, de l'EVAM. Et j'ai aucune idée quelle surprise je recevrai pour la prochaine fois. Je peux dire que la projection de ma vie, c'est jusqu'à prochain rendez-vous au SPOP. Et le prochain, c'est le 29 janvier.
Bon, eh bien, on te croise les doigts pour le 29 janvier.
Merci.
Merci beaucoup, Anouche, d'avoir accepté de témoigner de ton expérience, de ce renvoi imminent. Je le rappelle, tu es rédactrice à Voix d'Exil, le média d'information destiné à l'expression libre des personnes migrantes en Suisse et ailleurs. Merci beaucoup de ta sincérité.
Merci pour l'invitation.
Et merci à Omar pour la préparation de ce témoignage touchant. Un sujet à retrouver sur notre site django.fm et également sur le vôtre, celui de Voix d'Exil, voixd'exil.ch. Odo Adada, c'est ce titre qu'on vous proposait sur Radio Django. Et puis, ben voilà, vous restez avec nous, bien sûr, à l'écoute de Radio Django et de Radio La Fabrique sur radio.django.fm et sur le DAB de La Fabrique jusqu'à 19h. C'est le Grand Direct, votre rendez-vous de Ville Lausannoise de tous les mardis soirs entre 18 et 19h. Et puis, dans un instant, eh bien, on va parler culture avec une pièce qui se jouera à partir de début février. Il s'agit de la pièce Dialogue d'un chien avec son maître sur la nécessité de mordre ses amis. C'est un enregistrement exclusif réalisé par notre collaborateur Stéphane. On découvre tout ça dans quelques instants, mais encore un petit peu de musique avec Céline McLaurin.
For me, I'm happy as I can be. I've learned to love and to live. Devil may care. No blues or woes, whatever comes later goes. That's how I take and I give. Devil may care. When the day is through, I suffer no regrets. I know that he who frets loses the night. For only a fool dreams he can hold back the dawn. He who is wise never tries to revise what's past and gone. Live, love today, let come tomorrow. What may, don't even stop for a sigh. It doesn't help when you cry.
happy as I can be. I've learned to love and to live. Devil may care, no blues or woes. Whatever comes later goes. That's how I take and I give. Devil may care. When the day is through, I suffer no regrets. I know that he who frets loses the night. For only a fool dreams he can hold back the dawn. He who is wise never tries to revise what's past and gone. Live, love today, let come tomorrow. What may, don't even stop for a sigh. It doesn't help when you cry. That's how I live and I'll die. Devil may care.
Radio Django, culture.
18h42 sur Radio Django et on entame cette dernière partie de ce grand direct avec Cultiver Lausanne. Et ce soir avec cet enregistrement exclusif pour Radio Django qui nous est proposé par Stéphane, l'enregistrement d'une pièce intitulée « Dialogue d'un chien avec son maître sur la nécessité de mordre ses amis ». Une pièce de Jean-Marie Piem qui va se jouer les 1, 2, 3, 4 février et puis les 8, 9, 10 et 11 février au Théâtre Contexte du Silo. Je vous propose sans plus attendre d'écouter les extraits de cette représentation qui était enregistrée sur place il y a quelques jours.
Dans les brumes du CO2, j'aperçois un crétin de chien qui va traverser la bretelle d'autoroute. Fais pas ça! Je voudrais lui dire, mais je la boucle, chacun sa vie. Et une vie de chien, tout le monde s'en fout. Du kleps ne doit pas rester grand-chose. Ratiboisé. Encore un qui va crever tout seul.
Salut tout le monde!
Kleps, sais-tu ce que tu viens de faire?
Je viens de provoquer un carambolage.
C'est quoi cette salade?
Je suis rodé, hein, sacrément au poil. Et j'ai mis tout ça au point tout seul. Primo, repérage d'une voiture qui ne roule pas trop vite. Deuxio, propulsion de myself au milieu de la route, genre crétin de kleps inconscient qui traverse n'importe où. Tertio, la voiture freine, freine, freine. La suivante passe et... ça se tamponne. L'enculade des bagnoles est la principale contribution de myself à l'assainissement de l'espace public. La crotte de chien sur le trottoir est déplaisante, moins toutefois que le cancer des voitures. J'encourage donc tous les anti-bagnoles à faire comme moi. Attention, les risques sont réels.
Pose-toi pas là.
Mon record, 12 d'un coup la semaine dernière, ça rend fier.
Trop bête pour que je te cause.
Tu m'offres pas un café?
Tu es un chien? Un vrai chien?
Ça ne se voit pas?
Tu pisses en levant la patte?
Pas toi.
T'as une drôle de dégaine.
C'est ton vrai nez, ça? Quelle race?
Une race qui aime le café, si c'est pas trop demandé.
Les progrès de la génétique sont formidables. Ne me prends quand même pas pour une courge.
Thé ou jus de fruits sont aussi dans mes options. À la rigueur, une bière. C'est chez toi, ici?
Va chercher, va chercher.
Va faire foutre, va faire foutre.
Ouais.
En somme, tu voulais voir mes papiers?
Fais des cabrioles.
Je marche déjà sur deux pattes.
Ça ne suffit pas.
Je te préviens tout de suite, il n'y a pas de place pour toi.
Parce qu'on n'est pas de la même race.
D'où viens-tu exactement?
D'un peu partout.
Un pur bâtard.
Moi, la pureté, je m'en bats l'œil. Un bâtard me suffit. Les races pures, on sait où ça mène.
Tu parles bizarre pour un chien.
Qu'est-ce qu'il y a de bizarre? J'ai eu des maîtres exceptionnels. Le premier était un homme rigoureux. Il disait, quand on veut quelque chose, mieux vaut le perdre en suivant une méthode que le gagner dans l'anarchie. Il a mis fin à ses jours
en suivant les recommandations du manuel. Le deuxième était un fanatique de l'absolu. Ce qu'il pensait, il le pensait absolument. Il changeait souvent de croyance, mettait autant d'absolu dans la nouvelle croyance que dans l'ancienne, si bien qu'on pouvait dire que la seule chose qui ne changeait pas chez lui était son besoin d'absolu. Par exemple, il souhaitait absolument la disparition des frontières. Mais un beau jour, ayant croisé un plombier polonais, il se mit à célébrer le rétablissement des frontières. Parfait militant de sa nouvelle cause, il était redevenu absolument nationaliste, soutenant absolument aujourd'hui ce qu'il avait absolument combattu hier. Ham ham, je lui fais, tu retournes facilement ta veste, mon lapin.
Je suis sincère.
La sincérité est la plus belle vertu humaine. On peut changer d'opinion quand la sincérité de l'être est au rendez-vous. Un homme sincère a une croyance sincère. Quand sincèrement il ne croit plus à sa croyance, il passe sincèrement à la croyance suivante. Si bien qu'en pensant blanc aujourd'hui et noir demain, mais avec une égale sincérité, il reste lui-même tout en devenant un autre. Bon, évidemment, seuls les êtres sincèrement sincères y arrivent, précisait-il. Comme je lui faisais remarquer que Hitler avait sincèrement gazé 6 millions de juifs, que ce n'était pas douteux, qu'il y avait mis tout son cœur, et que ce formidable engagement de l'être ne plaidait pas en faveur des vertus positives de la sincérité, il m'a jeté à la rue. Dehors. Il était absolument sincèrement désolé. Il fallait qu'il se débarrasse absolument sincèrement de moi. Je l'avais blessé, je l'avais trahi. Notre intimité ne pouvait plus être ce qu'elle était.
En somme, tu es un chien errant.
Absolument.
Licencié pour faute professionnelle grave.
On voit tout de suite de quel côté tu penches.
Le maître, c'est le maître. Le chien, c'est le chien.
Tu vis seul ici ?
Tu vois quelqu'un d'autre ?
La caravane, c'est à toi ?
Oui. Ma résidence secondaire face à l'océan.
Quel océan ?
Cherche en toi l'écho de l'océan. Tu l'entends ?
Non.
Crétin, ferme les yeux. Exerce ton imagination. Fixe-toi sur les détails de la vague. Alors ?
Oui.
Reste l'odeur le plus difficile. Quoiqu'un chien ait des avantages sur ce plan-là. Quand le son, l'image, l'odeur sont là, tu y es. Tu respires à plein poumon. La mer toujours recommencée. Ô récompense après une pensée qu'un long soupir sur le calme des dieux.
C'est très beau.
C'est une citation, encyclopédie section littérature, siècle 20e, un poète nommé je ne sais plus comment, j'ai un trou.
Où le trou ?
Cours plutôt sur le sable pour te dérouiller les pattes. Tous les clubs aiment ça. Là, une mouette. Tu as entendu ?
Non.
Une mouette, tout ce qu'il y a de classique, pourtant. Je pose mon diagnostic. Chien de basse extraction, abandonné par le ciel, n'a probablement jamais vu la mer. Un chien pauvre ou un pauvre chien.
Oh, les pauvres, je connais.
C'est ce que je disais.
J'ai souvent été féroce avec les pauvres.
Tu leur faisais quoi ?
Morsure jusqu'au sang.
Salaud.
Mordre quelqu'un peut avoir du bon. J'ai connu un homme qui s'accusait de l'état déplorable du monde. Il était très affecté. « Quand je me regarde dans un miroir, je vois un coupable, disait-il. Je suis un salaud de chômeur qui ne veut pas retrouver du travail. Un salaud de pauvre qui bouffe les allocations de survie au lieu de crever de faim sur le trottoir. » Sa situation était très pénible.
Qu'as-tu fait ?
J'ai proposé de le mordre une ou deux fois par semaine.
Il a accepté ?
Ben, il était sceptique.
Tu es un charlatan, comme on en voit beaucoup. Exactement comme ces politiques qui veulent bouleverser le monde, mais ne lâcheront le pouvoir qu'une fois partis des pieds devant.
Le psy, il aurait dû le payer. Moi, je l'ai mordu gratuitement. On se donnait rendez-vous dans le parc. Une fois, c'était la main, une fois, c'était le mollet.
Sa culpabilité a fondu comme beurre dans la poêle. Il a retrouvé ses couleurs, sa dignité. Il a compris qu'il fallait chercher ailleurs les causes de sa misère. J'ai également mordu une pauvre femme qui se laissait marcher sur les pieds. Ça a pris du temps, j'ai dû y mettre le paquet. Morsure radicale. Elle a fini par se révolter contre moi. Je vais te fendre la gueule en deux, qu'elle disait. Justement, j'ai répondu, garde la colère dans ton poing et casse plutôt la gueule à ton mec. Ça l'a fait réfléchir. Quand je l'ai revue, elle m'a dit, le con, je l'ai foutu dehors. Je l'ai foutu dehors, merci, chien.
Mordre les pauvres gens, tu aimais ça, avoue.
Pas du tout.
Tu y prenais plaisir.
Mais les pauvres se décevront, sans tout de suite la chair mal nourrie. Les petits cons de Skin sont plus juteux. Ils dégorgent une crasse mentale bien drue. La fesse raciste est gorgée de haine. Ça excite les mâchoires, ça les rend voraces. Je veux cette fesse, je veux en avoir plein la gueule. Et elles mordent comme de bonnes grosses mâchoires qui font très mal. Après, on se sent bien, pacifié. On plane dans la satisfaction du devoir accompli. Qu'est-ce que tu fais ?
Ta gueule, j'écoute.
Tu écoutes quoi ?
Tu l'entends ? Tu l'entends ?
J'entends rien.
Eh bien, ça me dérange que tu n'entendes rien quand moi j'entends quelque chose. Ça veut clairement dire qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Casse-toi, je vis ici, je vis comme je vis, je n'ai rien à partager. Ce que je gagne petitement, la vie le bouffe goulûment. Ai-je dit hier à deux illuminés qui frappaient à ma porte. Justement, ils ont dit. On voulait vous parler de la vie, du sens de la vie. En fait, ces convertisseurs en cucuterie céleste voulaient que je prenne mon salut au sérieux. La foi qui soulève les montagnes a un rasoir dans la main. Dieu aime les gorges hérétiques bien tranchées. Le gorgeon de sang, c'est son apéro du dimanche. Ai-je dit pour détendre l'atmosphère. En fait, c'était pas des curés, une secte, je ne sais quoi. Les sectes me plaisent quand elles se liquident elles-mêmes. Êtes-vous une secte de cet ordre-là ? Ils ont répondu que oui, que notre destin était de disparaître ici-bas pour trouver l'éternité ailleurs. Alors, ce sera sans moi, j'ai dit. Et comme ils ne comprenaient pas, j'ai cogné.
Compris. Très aimable. Ciao.
Il s'agit avant tout d'une rencontre improbable que seul le théâtre peut permettre entre un homme, qui n'en est plus tout à fait un, du moins socialement parlant, et d'un chien qui parle, une rencontre pleine de rebondissements où humour, philosophie, critique sociale, émotion et féerie se côtoient joyeusement. C'est ce que nous dit le programme de cette pièce, Dialogue d'un chien avec son maître sur la nécessité de mordre ses amis, qui se joue à partir du début du mois de février au théâtre Contexte Silo par le collectif Nunc Théâtre. Vous dire encore que les réservations sont obligatoires sur internet, www.théâtre-contexte-silo.ch ou encore par téléphone. On vous met toutes les informations sur notre site internet et puis notez encore les dates. Les 1, 2, 3 et 4 février, ainsi que les 8, 9, 10 et 11 à 20h. Et puis le dimanche, c'est une représentation à 17h. Toutes les informations, théâtre-contexte-silo.ch pour cette pièce « Dialogue d'un chien avec son maître sur la nécessité de mordre ses amis » de Jean-Marie Piem. Toutes les informations sur notre site www.django.fm. Et on remercie Stéphane qui a été enregistré cette représentation pour nous.
taboo, and now you got me going crazy. Got my mind flooded with maybe. I can't share my heart with you, 'cause baby, you're forbidden.
And you got me.
Let me tell you what's on my mind, 'cause you've been talking all this time.
Nick West sur Radio Django et Radio La Fabrique. On me signale d'ailleurs qu'ils étaient, se sont produits au Jazz 11 Plus. C'était l'automne passé ici en région lausannoise. Le grand direct s'est terminé pour ce mardi. Nous vous avons parlé ce soir de l'expo photo qui se tient actuellement au 221, du renvoi d'une chroniqueuse de Voix d'Exil et de la pièce Dialogue d'un chien avec son maître sur la nécessité de mordre ses amis de Jean-Marie Piem au théâtre Contexte Silo. Tous ces sujets sont à retrouver sur notre site internet www.django.fm. La semaine prochaine, Vivre à Lausanne anticipe un tout petit peu, pour être précis d'une semaine, la pause syndicale qui se penchera donc cette fois-ci sur la bataille de la fonction publique vaudoise contre la dégradation des retraites. Et puis nous parlerons également du NUD Festival spécial Do It Yourself qui se tient dans plusieurs lieux lausannois, notamment Pôle Sud. Ce sera du 27 janvier au 4 février. Rendez-vous donc mardi prochain à partir de 18h précise pour un nouveau grand direct à écouter sur radio.django.fm et sur le DAB grâce à La Fabrique. Je vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de vos programmes respectifs. Il est précisément 19h sur Radio Django. Belle soirée.
Radio Django à écouter sur radio.django.fm.